Bien, alors si vous voulez, on va entreprendre cette séance, donc où on aura trois communications qu'on va écouter à la suite, et ensuite il y aura de Bertrand Gervais, Diane Monique Davio et Alberto Ruiz Sanchez. Alors avant qu'on commence, je voudrais signaler la présence cet après-midi avec nous de Réjeanne Bouger, qui est du Conseil des arts de Montréal, qui est quand même un organisme qui nous accorde une aide, un soutien financier. Alors, je vous présente sans plus tarder notre premier intervenant, Bertrand Gervais, qui est l'auteur de récits, de romans, dont Le Maître du Château Rouge en 2008, L'île des pas perdus en 2007, Les failles de l'Amérique en 2005, de même que d'essais sur la lecture, la littérature américaine et l'imaginaire. Il enseigne au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, actuellement en grève. Et il s'intéresse aux romans contemporains, de même qu'à l'imaginaire et à ses figures. Il est directeur de Figura, un centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, et du NT2, le laboratoire de recherche sur les arts et les littératures hypermédiatiques.
Merci.
Alors, Bertrand. Donc,
c'est là qu'on sait que tout à coup
que ça explose.
Ben écoutez, très brève introduction. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Que ça va pour la voix?
Oui, ça devrait.
En fait, on a dû, comme je connais bien Louise et que je sais qu'elle sait que j'ai beaucoup travaillé sur les formes de l'oubli dans les fictions contemporaines. Il a dit que m'inviter à un colloque sur la mémoire, ce n'est pas pour que je vienne vous parler de mémoire, mais plutôt que je vienne vous parler d'oubli, ce que je ferai. Et enfin, j'essaierai de vous parler de l'oubli dans la perspective de la création littéraire et des processus de création littéraire. Alors, voici à peu près ce que ça donne. Dans ses Apocalypses de 1999, sa très belle série de révélations, l'écrivain français Daniel Auster raconte la révélation suivante. Un homme qui avait tout oublié à force d'application s'avisa qu'il avait encore un souvenir. C'était un souvenir qu'il torturait jour et nuit, mais il n'en connaissait que la forme, la musique, le fantôme. Il n'aurait su lui donner un nom ni un visage. C'était pourtant ce souvenir-là qu'il aurait dû oublier et pas les autres. Il décida de le graver dans sa mémoire et se dit qu'un jour, on finirait bien par le graver sur sa tombe. Fin de la révélation de Auster. Donc, le récit d'Auster révèle un paradoxe de la mémoire. Ce qu'on veut oublier, on le retient. Et ce qu'on veut retenir, on l'oublie. Il n'y a pas une mémoire qui serait comme un roc, que les eaux de l'oubli viendraient éroder. Il y a une mémoire et un oubli, unis comme les deux faces d'une pièce, les deux noms d'une même réalité de l'esprit. D'ailleurs, le souvenir n'est que cela, un souvenir, c'est-à-dire un ensemble structuré, mais statique, d'informations. Je recommence. D'ailleurs, le souvenir qui n'est que cela, un souvenir, un ensemble structuré mais statique d'informations, devient vite une épitaphe, une inscription funéraire et n'a plus rien d'une pensée vivante capable d'imaginer, de créer. On ne peut pas se forcer à oublier comme on ne peut pas ne rien oublier. Emmanuel Kant fournit un bel exemple du premier motif et Jorge Luis Borges du second. Alors, Emmanuel Kant, après avoir chassé l'ampe, son vieux domestique, Kant, lui-même déjà âgé, ne parvient pas à se débarrasser de son souvenir. Comme le signale Harald von Reich, qui rapporte l'anecdote, et je vous cite von Reich, « Visiblement, le personnage du vieux domestique s'était si étroitement associé aux habitudes quotidiennes du philosophe que le nom de l'homme ne lui sortait plus de la tête. » Fin de la citation. « Il lui fallait donc solliciter sa mémoire afin, nous dit encore von Reich, afin de favoriser l'oubli. » Systématique comme toujours, Kant rédige donc un aide-mémoire qui suit, le nom de l'ampe doit désormais être complètement effacé de ma mémoire. Fin de l'aide-mémoire. Souviens-toi d'oublier, semble dire le philosophe, pourtant peu habitué aux contradictions. Son aide-mémoire est une double contrainte parfaite. On ne peut se forcer à oublier comme on ne peut se forcer à être spontané. D'où la phrase « Soyez spontané ». Bon, bêtine, ça fait grand cas. L'idéal d'une mémoire parfaite, d'une faculté sur laquelle l'oubli n'aurait aucune prise, n'est pas qu'un mythe, il est aussi, comme l'a bien saisi Borges, la plus insupportable des prisons.
Dans Funès ou la mémoire, le personnage d'Irénée Funès apprend, suite à un accident, que sa perception et sa mémoire sont maintenant infaillibles. Il se souvient de tout, il ne peut rien oublier. Ce qui paraît être un prodige se révèle très tôt un enfer, car un homme qui ne peut rien oublier en vient à ne plus pouvoir agir. Pour Borges, il est évident que, et je le cite, penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, abstraire. Dans le monde surchargé de Funès, il n'y avait que des détails presque immédiats. Fin de la citation. Or, cette immédiateté des détails, cette logique de l'instant que la coprésence de tous les souvenirs engage, constitue une prison de tous les instants. D'où vient le passé? D'où vient que le passé importe parfois plus que le présent? Pourquoi faut-il que nous ayons organisé notre pensée en fonction de catégories comme le présent, le futur et le passé? C'est la mémoire qui fait exister le passé. Sans mémoire, sans lieu de mémoire à la Pierre Nova, ou encore sans... Nova, qui est Pierre Nova? Pierre Nora, bien sûr. Sans palais de mémoire à la Cicéron et Simonide surtout, qui est à l'origine du procédé, le passé n'a aucune présence. Il se disloque comme un vent qui vient de souffler et qui se perd dans l'immensité de l'atmosphère. Mais ce passé, quel est ce rôle? Quel est son rôle? Est-ce une loi, un matériau, une potentialité? Alors, ce que je me promets et ce que je vais faire maintenant pour les quelques minutes qui me sont consacrées, c'est d'explorer ces trois possibilités-là de définition du passé, c'est-à-dire loi, matériau et potentialité, à la lumière des processus de création littéraire. On comprendra que le premier des rôles, celui de loi, est essentiellement négatif en ce qu'il maintient l'hégémonie de la mémoire, tandis que la création littéraire, requiert avant tout des plages de liberté, des plages, voire une pratique assumée de l'oubli. Le passé comme loi transforme la mémoire en mémorial, en instrument commémoratif. Nous sommes loin de la création et de l'invention. L'oubli y apparaît comme essentiellement négatif, c'est-à-dire un problème à résoudre. Paul Ricoeur résume bien cette attitude quand il constate que, et je le cite, « c'est d'abord et massivement comme une atteinte à la fiabilité de la mémoire que l'oubli est ressenti. Une atteinte, une faiblesse, une lacune. » Fin de la citation. Dans sa définition négative, l'oubli est le contraire de la mémoire, devenue valeur absolue. Une telle conception fige le temps et impose le passé comme seule vérité possible. Le passé, devenu autorité, a comme seul gardien la mémoire. Et ensemble, ils semblent imposer leur loi sur tout, sur le temps qui lui est subordonné et sur les êtres forcés d'en répéter la logique. Le futur n'est plus imaginé que sur la base de ce passé, l'avenir ne survenant que pour le confirmer dans son droit et sa vérité éternisée. Il ne peut y avoir de création dans ce tableau, il ne peut y avoir qu'une restauration, un regard essentiellement tourné vers l'arrière. Donc j'oppose restauration et création. C'est contre cet usage du passé que Nietzsche le premier s'est rebellé. Dans Généalogie de la morale, il déclare, et je le cite, « L'oubli n'est pas une simple vice inertiée, comme le croient les esprits superficiels, mais plutôt une faculté de rétention active, positive au sens le plus rigoureux. » Fin de la citation. L'oubli actif, c'est ce qui, et je vous recite à nouveau Nietzsche, « garde l'entrée, maintient l'ordre psychique, la paix, l'étiquette, ce qui permet, continuant d'apercevoir dans quelle mesure, sans oubli, il ne saurait y avoir de bonheur, de belle humeur, d'espérance, de fierté, de présent. » Fin de la citation. Et j'ajouterai à sa suite de création littéraire. L'oubli devient une force, il n'est plus, dans cette perspective nietzschéenne, l'oubli devient une force, il n'est plus un envers de la mémoire, mais un principe actif. C'est ce que je vais essayer de développer maintenant. Concevoir le passé comme matériau, c'est ouvrir la voie à une réévaluation des rôles de la mémoire et de l'oubli dans les processus de création. C'est descendre le passé de son piédestal et le ramener au rang d'élément. Si le passé devient un matériau, c'est que la mémoire est un travail. Dans ce portrait, elle ne s'oppose plus à l'oubli, ne recherche pas fidélité et ne se demande plus ce qui a été oublié ou délaissé, qui devrait être rappelé. Elle s'active plutôt à saisir ce qui a été maintenu dans ce processus complexe de délestage, qu'est le traitement des événements, des situations et des perceptions en cours et leur transformation en souvenirs, en marques maintenues ou disponibles au présent. Mais ces souvenirs ne sont pas une création littéraire en tant que telle. Sauf exception, notre vie n'est pas un projet esthétique ou romanesque. pour le dire simplement, dans le meilleur des cas, la vie, notre vie, est le brouillon du roman qu'elle permet de rédiger. Les souvenirs sont des matériaux, comme le sont les archives, les faits divers et les événements du monde, mais comme le sont aussi les mythes et les histoires déjà racontées. Dans le processus de création, rien, sinon leur origine, ne les distingue. Et au final, ils participent tous d'une même réalité, celle du texte rédigé, de cette totalité qu'est une création littéraire. Le travail d'écriture est un processus double de dessaisissement et de ressaisissement. Il faut se perdre dans ses souvenirs et ses oublis et passer les eaux de sa mémoire au tamis pour en découvrir ses faits et événements qui pourront être par la suite transformés en texte, en récit, en roman, en poème. Le passé comme matériau parle avant tout de la deuxième composante de ce processus, le ressaisissement, qui représente bien le travail en cours de l'écrivain, cette activité soutenue qui fait advenir l'œuvre. Pour rendre compte du dessaisissement initial, il faut plutôt penser le passé non seulement comme matériau, mais comme potentialité. Entrevoir le passé comme potentialité, c'est littéralement faire éclater la structure traditionnelle du temps et verser pleinement dans une logique du processus et de l'oubli comme modalité de l'agir et non comme travers de la mémoire. Cet oubli positif, c'est le musement. Donc, c'est le verbe « muser ». Faisant un substantif, ça devient le musement. Donc, maintenant, je parlerai surtout de musement. Le musement est un jeu pur, un jeu où la temporalité et la rationalité connaissent de nouvelles définitions, où la durée cède le pas à une logique de l'instant, où la répétition et la tradition se dissolvent dans un irrépressible mouvement de progression et de renouvellement. Le musement est le temps du rêve. Il est une pure potentialité. Il se présente comme un dessaisissement, un mouvement continu de la pensée, un flot qui nous traverse jusqu'à ce que nous nous déprenions de lui pour une raison ou pour une autre. C'est une forme de discours intérieur qui ne doit pas être conçu comme une dérive occasionnelle, mais comme le moteur même de notre pensée. On peut le comparer à l'association libre, pratiquée en psychanalyse, qui n'est pas le musement, mais une façon d'en mimer le jeu. C'est surtout, pour moi, l'essence d'un esprit en plein processus créateur. Le musement est l'imagination au travail. Écrire, imaginer, et imaginer dans le sens fort du terme, c'est-à-dire de créer des formes nouvelles, d'arpenter un territoire non encore défriché, c'est oublier et s'oublier. L'oubli permet au nouveau de survenir. Il est disjonction, rupture, événement inattendu. Si mémoire, identité et temporalité vont de pair, l'oubli comme modalité de l'agir s'ouvre sur l'altérité et sur une dislocation de l'expérience du temps. Le musement est le contraire des palais de mémoire, puisque tout s'y confond, le littéral et l'allégorique, l'avant, le pendant et l'après, qui, de ce fait, perdent toute actualité, toute stabilité. Le musement n'empêche pas de se souvenir, l'oubli positif n'affecte pas la mémoire, elle ne l'efface pas non plus, mais elle décolle les souvenirs de la gangue de la mémoire. Roger Caillois a décrit comme une forme de musement les rêveries que les pierres ont suscitées chez lui. Dans un beau texte qui date de 1975, qui est « Pierre réfléchit », il réfléchit sur ces pierres qui semblent porter des marques d'écriture. Et voici ce qu'il dit. « Les formes et les dessins des pierres offrent un prétexte à la dérive de mon esprit, autant qu'une énigme à sa réflexion. M'attardant à les regarder, il m'arrive également d'être distrait, détendu, flottant. Je navigue à l'estime ou à la corne de brume, en ces eaux du songe. Si je pensais que l'illumination fût autre chose qu'un éblouissement, je dirais extatique, ces états opposés, proches parents les uns de l'hypnose, les autres du vagabondage, où se pressent des conjectures, tour à tour strictes et sauvages, comme une foison d'herbes folles, orties et ivraies, envahies dans une promiscuité abominable des plans d'agronomes, de généticiens. » Fin de la citation. Musée, et on le voit très bien dans la citation de Caillois, c'est perdre la notion du temps, c'est se perdre dans la contemplation de figures, dans la contemplation de ces figures. Musée, c'est s'inscrire dans le temps du rêve et entreprendre de suivre ses propres champs de pistes qui apparaissent alors comme cet indispensable ressaisissement par lequel nos éblouissements initiaux prennent forme. Nous sommes des êtres du temps et de la mémoire, uniquement parce que notre société nous a formés à penser notre rapport au monde en ces termes. Bien entendu, le temps, les saisons, les lunaisons, les durées variables de temps d'ensoleillement marquent nos vies. Mais la création littéraire, toute forme de création, peut, voire doit s'affranchir de cette contrainte si elle veut non seulement rendre compte du présent de ses exigences, mais s'ouvrir aux formes potentiellement infinies de l'imagination, par définition atemporelle. Alors, sur une note peut-être un peu plus du témoignage, je vous dis que je pratique depuis longtemps le musement, et cela de toutes les façons possibles. Ce concept a agi sur moi comme un aimant. J'en ai entendu parler une première fois dans un séminaire du philosophe français maintenant décédé, Gérard de Ledal, qui était le premier traducteur de Charles Sanders Peirce en France. Et c'est Peirce qui est arrivé avec le concept de musement à la fin du 19e siècle. Et j'ai été immédiatement conquis. Depuis, je vous l'avoue, je ne cesse d'en explorer les multiples facettes à la croisée de l'inconscient et des formes contemporaines de la rationalité. J'en ai fait dans un premier temps un objet d'étude, en l'inscrivant au cœur de mon essai sur les formes contemporaines du labyrinthe. Ce vagabondage de l'esprit dont je parle correspond tout à fait pour moi à l'errance dans un labyrinthe. J'ai donc cherché à voir jusqu'à quel point cette analogie était motivée. Si le musement est un labyrinthe de pensée, est-ce que la contrepartie est aussi vraie? C'est-à-dire, est-ce que le labyrinthe, dans ses représentations narratives et artistiques, apparaît comme un lieu de l'oubli en acte? Évidemment, ma réponse est oui, et ça a donné un essai sur la ligne brisée. J'en ai exploré aussi de l'intérieur certaines de ces possibilités en proposant de multiples fictions de l'oubli, des fictions centrées sur des personnages avant tout définis comme des êtres de l'oubli. Alors que ce soit Mitchell, le personnage de Oslo, mon premier roman, qui broie du noir dans le palais des nains où il s'est installé, Gazol, dans le roman éponyme, qui s'aventure sur le territoire mortifère du monde des morts accompagné du spectre de son ami suicidé, Thomas Cusson, des failles de l'Amérique, qui ne fait pas la différence entre ce qui est dans le monde et ce qui provient de son propre inconscient, ou encore plus récemment Caroline Berger, dans l'île des pas perdus et le maître du Château Rouge, qui confond allègrement le réel et l'imaginaire, tous incarnent l'oubli sous un aspect ou sous un autre. Mais plus qu'un attribut ou un objet d'étude, le musement et l'oubli actif qu'il représente est au cœur de mes processus de création. Je laisse mon esprit dériver, mes pensées suivre leur propre trajet, mouvement, virtuel, qui dessine un dédale aux tracés souvent inattendus. Nos pensées, j'en ai maintenant la conviction, sont avant toute chose des possibilités. Parler et créer, c'est arrêter le flux constant de pensées qui nous traverse pour en capter un moment. C'est comme tendre un gobelet dans les eaux tumultueuses d'une rivière pour en ramener un verre. Que reste-t-il dans ce verre? De l'énergie de la rivière. De l'écume, des remous, des vagues qui se brisent contre les roches. Plus rien, du moins en surface. L'eau du verre est calme et sereine, elle ne tressaille plus, elle se laisse boire sans réagir. Elle est à notre portée, tandis que l'eau de la rivière était véhémente. Mais elle tire tout de même son origine de cette seule source. Entre nos pensées énoncées et la rêverie en action, entre la création littéraire et le musement, il y a le même écart et la même relation nécessaire. Il n'y a pas de pensée sans rêverie, comme il n'y a pas d'eau sans rivière. C'est pour moi le principe même de la création littéraire. Merci.
Alors, merci Bertrand Gervais. On a sûrement l'occasion de revenir sur cet éloge inconditionnel de l'oubli, un oubli actif, créateur. Alors maintenant, Diane Monique Daviau, à ma droite, d'abord connue, très connue, comme auteur de nouvelles, avec plus de 200 textes publiés, et une trentaine diffusés à la radio. Elle a publié en 1999 un récit, « Ma mère et Gainsbourg », en nomination pour le Grand Prix du Livre de Montréal en 1999 et pour le Grand Prix des lectrices de la revue Elle Québec en 2000. En 2004, elle a fait paraître un roman, « Une femme s'en va », un recueil de nouvelles et est en attente actuellement de publication. Et elle travaille aussi en parallèle à un récit. Diane Monique Daviau a été chroniqueur littéraire. Elle a enseigné la littérature et la langue allemande, la traduction, qui est une de ses passions. Elle travaille depuis une trentaine d'années pour diverses maisons d'édition, tant à l'étranger qu'au Québec. Alors, je lui laisse la parole.
Merci. Alors, je ne suis pas, comme vous l'avez vu, professeur d'université, et je n'ai pas fait de recherche ou de séminaire sur la mémoire ou l'oubli. Je suis simplement un écrivain, et j'ai accepté l'invitation parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça va, le son? Oui. Alors, j'ai intitulé mon court texte « Une cathédrale dans une chapelle ». Je peux difficilement imaginer un écrivain insensible à l'idée que son écriture soit travaillée par la mémoire. Mais si certains écrivent pour se souvenir, retrouver ce qui a été et le raconter, toute œuvre n'est pas forcément, au sens strict, une entreprise de remémoration. En ce qui me concerne, j'écris plutôt pour découvrir un monde nouveau, m'y construire. Et si l'écriture, par le biais de la fiction, me restitue la mémoire d'un souvenir, alors je tente d'y faire face pour permettre à la mémoire de s'alléger, se délester. On écrit aussi pour oublier. Les agendas, les listes contribuent à décharger la mémoire. Il en est de même pour l'écriture dite littéraire. Décharger la mémoire, cependant, la libérer est aussi s'occuper de la mémoire. Donc, lorsque j'écris, je suis obligatoirement dans un rapport à la mémoire, même si ce rapport ne devait jamais être précisé. On l'a dit, le contraire de la mémoire n'est pas l'oubli, mais l'amnésie. Je pense que ce pourrait être également l'hypermnésie, car l'incapacité de ne pas se souvenir tue la mémoire. Et mon proverbe pour la journée, c'est « Qui la mémoire trop harasse, mal se souvient ». On peut bien sûr parler de l'oubli comme d'une insuffisance, une défaillance de la mémoire, mais l'oubli est aussi, comme le rappelait Bertrand en parlant de Nietzsche, un principe actif, une fonction indispensable qui permet à la mémoire d'être véritablement efficace. Il faut pouvoir ignorer, oblitérer, pour être en mesure de se souvenir. La mémoire se définit vraiment aussi par sa capacité à ne pas retenir, à oublier. Et c'est cet aspect de la mémoire qui traverse le plus mes livres. Longtemps, non, je ne me suis pas couchée de bonne heure, j'ai toujours écrit de préférence la nuit. Longtemps, je n'ai pas voulu élaborer sur ce qui constitue le cœur de mon désir et de mon besoin d'écrire. Je ne voulais pas trop savoir ce qui a fait que j'écris, ni pourquoi je continue à le faire, un peu une superstition, évidemment de peur de le voir m'échapper, de le perdre. Mais on n'y échappe pas. C'est impossible de ne pas finir par voir ce qui est au centre d'une telle entreprise. Et je sais maintenant que les questions de mémoire et d'oubli constituent une problématique importante de mon travail d'écriture. Mon rapport inconscient, quel beau lapsus, mon rapport conscient à la mémoire dans ma pratique d'écrivain s'inscrit dans une tentative de désencombrer ma mémoire à moi et autant que possible l'inconscient de toutes sortes de débris, scories, carcasses, épaves et autres cadavres qui autrement entraveraient ma marche et ma traversée de la vie. Bien que n'ayant pas le projet de me souvenir, mais plutôt celui d'oublier, il est évident que je me retrouve parfois prise au piège de la mémoire. L'écriture, par le biais d'un détail, fait quelquefois surgir à l'improviste un souvenir, celui d'une personne, d'un événement de mon passé, d'un lieu, d'une ambiance, d'une sensation, d'un sentiment. Si ce qui apparaît alors n'est qu'un artefact de mon histoire, j'essaie d'en évaluer la pertinence en lien avec le texte en devenir, puis de voir si, même pertinente, l'utilisation que je pourrais faire de ce souvenir ne risque pas plutôt de m'éloigner du texte en m'engluant dans une mémoire stérile et aliénante. J'ai fait l'expérience qu'une vague réminiscence est généralement plus féconde qu'un souvenir trop précis. Le souvenir, pour être utilisable, assimilable par le texte, doit d'abord être vidé de sa charge affective. De la même manière qu'il m'est arrivé de vivre des moments de révélation à travers l'écriture, voyant tout à coup les éléments de ma propre vie dans une lumière inédite, découvrant des liens que je ne cherchais pas, les personnages, situations, atmosphères me donnant soudain accès à des nœuds de mon histoire personnelle, mes textes mettent souvent en scène des personnages qui font eux aussi l'expérience de petites épiphanies. Comme tant de personnages, peut-être tous les personnages, ceux de mes livres cherchent leur salut Et s'il le trouve, c'est plus souvent par l'oubli que par le souvenir. Le souvenir, les réminiscences explicitées, mettent à jour assez fréquemment des traumatismes, petits et grands, qui parfois se répercutent même sur la génération suivante. Par exemple, dans « Au logis du cheval d'or », où le souvenir d'un trauma se transmet de mère en fille, parfois font abandonner une maison, un projet de vie, comme dans « Et puis une fille est arrivée », ou encore engendre des idées fixes, des gestes compulsifs, destructeurs, comme c'est le cas dans « Rose Théière ». Même des souvenirs heureux alourdissent ici et là la vie de certaines figures, les emprisonnant dans la nostalgie. Par exemple, dans « Tout est doux », où le narrateur est pris dans un réseau de lieux sursaturés de souvenirs inoubliables. D'autres personnages, eux aussi sous l'emprise de la tyrannie de la mémoire, arrivent à s'en libérer et à réagir, l'un en se dégageant avec violence d'un réseau de souvenirs trop puissant, l'autre en fuyant dans l'affubulation, le rêve, ou en se mettant provisoirement ou définitivement à l'abri du danger, que ce soit en frayant avec quelque chose ou quelqu'un qui ne laissera pas de trace en lui ou auquel il ne peut s'attacher, ou encore en se retirant dans un blanc quelconque, en se glissant dans une faille, en se réfugiant dans le grand lieu de l'oubli, comme ce personnage dans le « Cherche-étoile », qui fait partie du livre que je publierai en octobre, le Cherche-étoile, qui, après une longue vie remplie de souvenirs pénibles, esquisse un sourire en mourant, le visage comme illuminé de l'intérieur. Le livre dans lequel j'ai été le plus confrontée à la mémoire par le biais des souvenirs est évidemment « Ma mère et Gainsbourg », le seul récit autobiographique que j'ai à ce jour consenti à écrire. Mes préoccupations face au récit, au fur et à mesure qu'il se développait, de phrase en phrase, sont restées les mêmes jusqu'à la toute fin. Comment ne pas trahir la mémoire d'une relation, d'une histoire personnelle, familiale? Comment dire cette mère, cette femme-là, cette vie avec cette femme-là, sans brusquer la mémoire de ceux qui restent, voire l'écorcher? Il m'a fallu parfois tronquer des souvenirs, tout en m'efforçant de ne pas trahir la vérité de ces fragments de mémoire. Mais là encore, l'écriture de la perte, perte à la fois réelle et apparente, a fait revivre davantage la mémoire de l'absence, du manque, et donc réanimer un désir d'oubli, plutôt que de susciter le besoin de retrouver le souvenir d'un passé dont la mémoire reste difficilement supportable. La question, inédite jusque-là dans mes livres, me révéla un nouvel aspect de la problématique mémorielle. Comment perdre ce qu'on n'a jamais eu? Comment oublier ce qui n'a jamais été? L'absence, le manque, les personnages de mes livres, et pas uniquement la narratrice de « Ma mère et Gainsbourg », sont souvent conscients de l'absence, du manque. Plutôt que de se rappeler ce qui a disparu, ou s'est amoindri, ou s'est transformé, ils se souviennent de ce qui n'a pas eu lieu et travaillent à trouver, construire, faire exister ce dont ils n'ont pas la mémoire. Dans ce que j'écris, il y a davantage un travail remémoratif de l'imaginaire que du souvenir. Mon histoire personnelle et ma manière d'être au monde m'obligent et me donne accès à une utilisation créatrice du manque de traces de l'espace vide dans la mémoire. Ce qui me préoccupe et m'intéresse le plus, ce sont les enjeux existentiels et créateurs du manque, plutôt que de la perte. C'est peut-être dans mon premier roman, « Une femme s'en va », que j'ai pu creuser mieux que jamais la question de la mémoire. D'abord, grâce à la distance et à l'espace narratif plus grand, grâce aussi aux diverses instances qui, sous différents angles, abordent le sujet ou le mettent en scène. Un drame familial, plusieurs personnages, plusieurs points de vue sur une disparition au fil d'une quinzaine d'années de questionnement, deux continents, Une vie de femme allant de 1951 aux années 2000, ma hantise des anachronismes, et surtout le fait que les 15 années d'absence de la mère sont également l'enfance et l'adolescence de deux fillettes laissées derrière, donc des années de mémoire d'enfant, puis d'adolescente, qui en valent 50, 100 dans une vie d'adulte. Des années d'apprentissage avec des points de repère dans le temps et dans l'espace qui changent continuellement. Des questions et des enjeux qui se transforment. Des souvenirs qui se délitent et d'autres qui, au contraire, prennent de l'acuité. Et des sentiments de perte qui font place à une absence nouvelle, une absence de. Dans cette famille, il manque une mère. On parle de cette famille comme d'une famille sans mère. Et les filles n'ont personne qui leur transmettrait la mémoire d'eux et les initierait à, lorsqu'elles ont un nouveau seuil à franchir. Entrer à l'école, comment tricote-t-on un foulard, premiers émois, comment fait-on le sucre à la crème, première règle, initiation à l'art du maquillage, premier bas de nylon, premier talon, premier bal, premier baiser. Mais la mère, elle aussi, perd ses points de repère spatio-temporels et surtout sa main droite, ce qui m'amena, sans l'avoir vu venir, devant la question de la mémoire du corps, vaste sujet s'il en est, et qui a donné naissance à un autre roman auquel je travaille actuellement et qui s'intitule « Qui se souvient de tout ?» Il y est question du rapport au temps, d'événements qui font que nous devenons quelqu'un de différent, et ne savons plus, dès lors, ce que nous avons déjà été. Car il y a toujours deux mondes, celui d'avant et celui d'après. Par exemple, le monde de ceux qui ne savent pas encore écrire et celui de ceux qui ont appris à écrire. Le monde de ceux qui ont déjà pris un avion, fumé, vomi, fait du vélo, perdu connaissance, accouché, subi une amputation, et le reste, et celui de ceux qui ne savent rien dans leur corps de ces expériences-là. Et lorsque nous avons basculé dans l'autre camp, nous ne savons plus vraiment comment était la vie d'avant, parce que nous en oublions instantanément l'essentiel. Quand, au détour d'une photo, d'une conversation, il nous revient à l'esprit des images de cette vie passée, elle ne se raccroche à rien de convaincant, de crédible, de croyable. C'est comme si nous avions rêvé. Il existe des seuils, des ruptures irréversibles qui fragmentent la mémoire en avant et après. Dans ce roman, qui se souvient de tout, je veux voir et faire voir si cela est visible chez le personnage que je mets en scène, si et à quel point, le cas échéant, il existe une certaine puissance, un avantage ou une qualité d'ordre existentiel relié à l'effacement des souvenirs. La question que ce personnage incarne à mes yeux et qu'il soulève est celle-ci. Dans quelle mesure l'oubli est-il lié à la mort des êtres en général? Et dans quelle mesure est-il lié à la vie en tant que processus fécond relié à l'édification et à la construction des êtres? Si on me parle de mémoire et d'écriture, ce n'est toutefois pas un certain nombre de sujets qui me viennent d'abord à l'esprit, ni un certain type de rapport à la réalité qui appelle à la raconter via le souvenir qu'on en a. C'est d'abord et avant tout la mémoire du texte et celle de l'écriture. La mémoire des textes et des livres déjà écrits et la mémoire du texte en train de s'écrire. J'ai à la fois la hantise d'oublier ce que j'ai écrit dans le passé, et donc possiblement de me répéter, et celle de m'en souvenir, et donc de ne pouvoir résister à la tentation de le reprendre pour l'écrire mieux, donc le réécrire de fond en comble. Dans le texte en train de s'écrire, la cohésion est faite à la fois de reprises et d'éléments qui permettent d'annoncer ce qui viendra. Dans les deux cas, c'est la mémoire qui assure la cohérence, la mienne, qui sera différente de celle d'un lecteur potentiel. Mais il y a aussi l'économie du récit dont il faut tenir compte. Le jeu d'équilibre entre le trop et le pas assez me donne parfois le vertige. Je questionne continuellement la pertinence de la répétition, je traque les répétitions involontaires et finis par douter devant celles qui étaient voulues et assumées. J'aime l'ellipse et je la crains. Quand je change un mot, un nom, lorsque je lis publiquement le texte, même 30 ans plus tard, c'est la première version du texte qui me revient, celle d'avant la modification. Pour la lisibilité du produit final, le changement de mot est peut-être mieux. Mais pour moi, qui ai la mémoire du mot ou du nom qui a existé, il y a chaque fois une certaine douleur à rejeter ce qui a été, même brièvement. Est-ce pour cette raison qu'il refait surface lorsque je lis le texte en public, que je n'arrive pas à m'en débarrasser, jusqu'à avoir parfois l'impression d'être hanté par la mémoire d'un mot rejeté? Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est Royer-Collard qui disait « On ne se souvient pas des choses, on ne se souvient que de soi-même. » Qu'il s'agisse d'objets, de personnes, de lieux ou de langues, qu'il s'agisse de personnages, de situations, d'adverbes ou de noms propres, je crois en effet qu'on ne se souvient que de ce que l'on investit de soi-même et de ses affects dans ses personnages, ses objets, ses lieux, ses noms, ses mots. Si la mémoire est effectivement une construction permanente à partir de données filtrées et choisies selon la manière personnelle d'habiter le monde à un moment précis, j'ai l'impression qu'il y a dans cette affirmation du vieux philosophe qui m'est revenu récemment en pensant à notre rencontre, quelque chose pour moi, quelque chose qui me concerne, moi et ma façon d'écrire. Et que le meilleur oubli, le plus fécond, est l'oubli de soi en toute chose. Parce qu'il restera toujours difficile de faire entrer une cathédrale dans une chapelle.
Alors, merci, Diane Monique Davion, pour ce parcours qui retrouve le chemin de l'oubli et de l'effacement, mais aussi dans une quête de la mémoire de soi, me semble-t-il. Et je pense qu'on pourra y revenir. Alors, le troisième et dernier exposé nous est fait par Alberto Ruiz Sanchez, donc qui est né à Mexico. Alberto Ruiz Sanchez est écrivain et éditeur. Son premier roman, Les visages de l'air, paru en 1987, lui a mérité le prix Javier Villarrosa. Il appartient à une tétralogie sur les quatre éléments primordiaux, les lèvres de l'eau, qui a obtenu le prix des trois continents en 1996, Comment la mélancolie est arrivée à Mogador en 1999 et La peau de la terre ou Les jardins secrets de Mogador en 2000. Tous ces romans sont traduits en français et publiés aux éditions du Rocher. En 1987, il avait publié Les démons de la langue, qui est paru chez Fata Morgana en 1999. Et plus récemment, en 2006, son livre « Neuf fois, neuf choses que l'on dit de Mogador » qui est apparu ici au Québec aux éditions Les Allusifs. En 2009, c'est déjà publié, donc oui, l'anthologie, oui. Une anthologie ouais. Des nouvelles du Mexique préparée par François Gaudry a été publiée aux éditions Métallier. Alberto Ruiz Sanchez dirige la revue « Artes de Mexico » depuis 1988.
Alors, bon, d'abord, merci pour m'avoir invité et je suis très content d'être à Montréal. Depuis un certain temps, je n'étais pas ici, mais je me souviens de rue, des gens et surtout de la subtilité des pensées, que surtout quand on a un rapport avec les Canada anglophones, c'est comme vraiment tout un autre pays. Et je suis beaucoup plus en contact avec Banff et tous ces mondes. Alors pour moi, c'est nourrissant et ça me prend aussi une grande nostalgie de l'époque où je vivais à Paris. Alors je me sens très, très lié à la culture des Québécois, comme beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus proche des moi. Mais aussi parce que c'est cette culture-là et l'époque que je passais à Paris qui m'a aidé à voir mon propre pays d'une autre manière. J'ai vécu pendant presque 10 ans, moi, à Paris, et quand je suis venu à Mexico, c'était les choses mexicaines que, selon moi, il fallait voir autrement. et qu'il fallait sortir toute la production culturelle, même celle qu'on appelle indigène, d'un puits ethnographique et la considérer dans toutes ses dimensions. Et c'est plutôt la nouvelle histoire en France et la philosophie qui aidait à faire ça. Et alors, depuis 20 ans, avec une empreinte très importante de la pensée que j'ai appris en France, je travaille sur le Mexique. Et quand j'ai reçu l'invitation de Louise, la lettre de Louise, pour venir et parler de la mémoire, et elle m'a invité à être avec vous et partager quelques idées, quelques expériences, j'étais au milieu d'un enjeu qui se passe au Mexique. Ça va se passer un peu partout, surtout en Amérique latine, parce que maintenant c'est les bicentenaires des indépendances. Alors c'est l'appel à la commémoration, mais c'est un gros appel. Et au Mexique, la culture est très déterminée aussi par les budgets, comme un peu partout. Mais bien sûr, la tendance naturelle des gens qui distribuent le budget, c'est de pousser les doigts dans la direction qu'ils veulent, surtout les politiciens. Et les politiciens, d'abord, ont très peu conscience de son propre rôle. Il leur faudrait une leçon de discrétion. Mais quand il arrive le moment de fêter les bicentenaires, la folie se déchaîne et les politiciens se pensent à eux-mêmes comme des héros. Alors, les bicentenaires, c'est 1812, c'est l'année du bicentenaire de l'indépendance. 1910 jusqu'à 14, c'est les centenaires de la... Pardon, 1810 et 1910, c'est le début de bicentenaire de l'indépendance et centenaire de la révolution mexicaine. Alors, la chose s'est déchaînée il y a quelques mois, et en quelques mois, il y a déjà plus de 20 biographies de Emiliano Zapata, plus de 20 de Francisco Villa. Et bien sûr, même les écrivains qui étaient, par exemple, des jeunes qui écrivaient des romans très avant-garde sur l'art et sur la rue, ils commencent tous à faire des biographies. Et ils disent, moi, je ferai la biographie réelle, je parlerai de personnages annos. Et chaque fois, on a la comprobation, on voit que c'est impossible de prendre un personnage qui est déjà un héros et les rendre vivants, ou les rendre en hausse, ou même s'ils le mettent à aller aux toilettes, ou je ne sais pas quoi, c'est pas suffisant pour sortir de l'enjeu de la commémoration. C'est-à-dire, la commémoration, et pas simplement pour le budget que ça amène, c'est quelque chose de terriblement fort. Et pour moi, les pires dangers n'est pas seulement dans la réitération d'une histoire officielle, mais dans quelque chose d'autre dont j'aimerais voyez tout au long de ces minutes les implications, c'est l'implication d'une manière de mémoire sur la perception de la vie quotidienne dans tous ses aspects, même si ceux qui ne touchent pas directement l'histoire ou la mémoire. C'est-à-dire, si l'on s'habitue, si l'on établit une manière de se souvenir des choses, on commence à voir ces regards pétrifiés un peu partout. Et on commence à voir tout d'une manière gelée. C'est-à-dire, la commémoration, c'est une manière de mémoire qu'engendre la bêtise. Et bien sûr, je suis écrivain qui écrit sur d'autres choses. J'écris sur les désirs, mais beaucoup de mes livres se passent au Maroc, beaucoup plus que ce qui se passe au Mexique, mais j'écris bien sûr beaucoup sur le Mexique. Mais comme je suis éditeur d'une revue d'art, mais c'est une revue sur la culture mexicaine, bien sûr, j'ai reçu plusieurs invitations pour faire un numéro sur l'indépendance, un numéro sur l'art lié à l'indépendance. Mais il y a tellement de gens qui l'ont déjà fait. Mais bien sûr, on est en crise. Mais même si on est en crise, il faut résister à la tentation. Mais en même temps, je me suis dit, on ne peut pas se taire. Il faut dire quelque chose. Alors si je fais ces discours contre les séros, contre l'histoire officielle. Aussi, il y a des gens qui les font, et ça sert à rien. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour, en touchant les commémorations, donner quelque chose de différent. Alors, je me suis rappelé d'un discours que j'admire beaucoup et que je trouvais toujours qu'il fallait traduire mieux en espagnol. C'était l'éloge de la mouche de Luciano de Samosate au 1er siècle, à une époque où les rhétoriciens faisaient l'éloge des héros de la ville. Il a fait l'éloge de la mouche, c'est-à-dire l'éloge de ce que les autres considèrent pas digne d'éloge. Et alors je me suis mis à faire tout un travail de nouvelle traduction comme éditeur et comme auteur, et avec des collaborateurs qui connaissaient bien les grecs classiques. Et bien sûr, et ça c'était les débuts de l'idée de faire un numéro monographique qui s'appelle « L'éloge de la mouche », qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Et bien sûr, je commençais dans ma note éditoriale, j'ai dit « fatigué des discours des politiciens et des publics ennuyés, des écrivains qui ont besoin de faire l'écho des politiciens, ma collaboration, la collaboration de notre équipe pour les bicentenaires, c'est l'éloge de la mouche. » Et on a rencontré énormément des échos. D'abord, bien sûr, il fallait faire toute une recherche sur la mouche. Il y a un travail d'un de mes professeurs que j'admirais beaucoup, André Chastel, je ne sais pas s'il est connu ici. C'est un historien d'art qui fait ses cours au Collège de France, c'était formidable. Et il a fait un très beau livre qui s'appelle « Musca de Picta ». Et un chapitre central, c'est les chapitres qui parlent des natures mortes, normalement, où il y a une mouche. Alors, la fonction de la mouche, ou ce que fait la mouche, c'est un effet de mémoire. C'est souvenir que l'on est mortel. C'est-à-dire vanitas, les classiques vanitas. Alors je me suis dit, pourquoi pas sortir le numéro avec une campagne d'ajouter à tout ce qui est officiel une mouche. Alors, deux semaines après la sortie du numéro, on a sorti aussi de stencils, c'est-à-dire de moules à papier. Et maintenant, quand on voit dans les affiches et tout, et tout le monde peut, si on fait attention, on repérait une mouche. Quelquefois, on met les mouches sur le nez de l'héros. Et alors, ça a devenu une activité. Et la mouche, en plus, c'est pas seulement la mouche, c'est de dire autrement, de penser et percevoir autrement, et de dire « il y a autre chose ». Il y a, surtout, je voulais faire l'emphase, il y a de l'inattendu. Et une des qualités que Luciano de Samosate attribue à la mouche, c'est les mouvements perpétuels. C'est-à-dire, si l'histoire officielle, c'est l'histoire fixe, il faut souligner que les choses se déplacent, que la vie continue, en dehors de ce jeu où l'on essaye de nous fixer. Et il y avait un écrivain néo-guatémalin qui a vécu au Mexique toute sa vie, Augusto Monterroso, que j'admirais beaucoup, on était très amis, qui a écrit les contes les plus courts du monde. C'est bien un conte qu'on peut dire comme ça. Il dit « Quand je me suis réveillé, les dinosaures étaient encore là. » Bien sûr que c'est, finalement, c'est une adaptation aussi d'un texte classique, où l'on dit « Et si on rêvait au paradis ?» Et quand on se réveille, on a sur les mains la fleur qu'on a rêvée. Et alors ? C'est un dilemme classique. Et Augusto Monterroso, il a écrit tout un livre sur les mouches qui s'appelle « Mouvement perpétuel ». Et il commence en disant « Il y a trois sujets importants dans l'histoire de l'humanité. L'amour, la mort et les mouches. Laissons les autres s'occuper de l'amour et de la mort, je m'occuperai des mouches. » Et il fait une anthologie des citations et des textes. C'est très, très, très amusant. Mais cet effet de la mouche, je voulais enfatiser surtout cette idée du vanitas et l'idée de l'inattendu. Et l'inattendu, je l'ai lié à... Bien sûr, on a fait aussi sur Internet et tout, des convocations. On a convoqué aux gens pour qu'ils ajoutent ces mouches. Ce n'est pas simplement des dardes, mais des mouches. Et moi, j'ai eu une deuxième expérience qui, pour moi, c'était vraiment une espèce de... des mouches, de scènes inattendues de la mémoire, qui est plutôt lié à une autre figure, la figure de la mémoire involontaire. Pas de la mémoire, c'est-à-dire dans l'histoire de la mouche, c'est de la mémoire volontaire et qui essaie d'introduire un mouvement. Mais une autre image que je voulais partager, c'était la mémoire involontaire. Et ça a eu à voir avec un voyage que je fais avec... Marguerite, qui est maintenant ma femme depuis très très longtemps, et nous étions à l'oasis des Sagora au sud du Maroc, à l'entrée du Sahara. Nous sommes arrivés, c'était 1975, nous sommes arrivés à un petit village où il y avait un millier de palmiers après avoir traversé le désert, et les gens étaient incroyablement excités. On savait qu'il y avait une situation de guerre avec l'Algérie, parce que c'était l'époque de la marche verte, c'est-à-dire que le roi du Maroc, c'était l'époque où Franco était en train de mourir, mais pas encore, et l'Espagne a abandonné sa colonie au Sahara. Et alors, l'abandon, c'était via un pacte avec les rois du Maroc, et le Maroc a envahi les territoires du Sahara. Ils l'ont encore, l'a partagé avec la Mauritanie d'abord. Et bien sûr, ça provoquait toute une guerre. L'Algérie appuyait les gens, les Sahariens, et c'était une situation assez agite. Il y avait couvre-feu, après 7 heures, il fallait être à l'intérieur, etc. Il y avait une vraie situation de guerre, et les gens étaient très excités. Mais ma surprise, c'était que les gens n'étaient pas excités par la guerre, je le crus d'abord, mais ils étaient excités parce que la nuit dernière, il y avait eu la pluie. Et il n'y avait pas eu de la pluie depuis 10 ans dans ce village. Et la pluie produit des effets incroyables dans les gens, d'abord dans les paysages, parce que les oasis s'étendent d'une manière imprévue. Il y a énormément de fleurs qui sortent, et que l'on sait qu'elles vont être séchées deux heures après, quand le soleil brillera à nouveau, elles seront tous séchées. Et quand on était là, et on ne pouvait pas sortir, on comptait aller plus au sud, rentrer dans le Sahara, mais on est tombé malade, on a perdu les derniers transports publics qui sortaient à 4 heures, et on a fermé la frontière. Alors on ne pouvait pas... continuer les voyages, nous sommes restés stockés. Et il y a eu un jeune homme qui s'est approché, qui nous a parlé. C'était un Allemand qui était un géologue spécialiste à l'évaporation de l'eau dans les déserts, qui avait fait des études de lettres, avait fait des voyages au Maroc, et il a décidé de revenir après avoir fait des études qu'il considérait qui pourraient être utiles pour les Marocs dont il est tombé amoureux. Alors, il est revenu en étant géologue et en faisant une recherche sur la quantité d'eau qu'on doit sortir des dépôts d'eau pour avoir une meilleure productivité dans les champs, dans l'oasis. Et il nous a dit, voulez-vous venir avec moi à voir l'évaporation de l'eau? J'ai dit, mais parce qu'il y a eu la pluie l'année dernière, c'est tout un spectacle. Alors nous sommes, le Sagora est à côté d'une formation géologique très bizarre parce que les déserts a tombé, il paraît qu'il y avait un trou souterrain énorme, les déserts est tombé et il y a eu une montagne qui est sortie au milieu et l'oasis grandit autour de la montagne. Alors nous sommes demandé la permission de l'armée parce que bien sûr la petite montagne c'était un poste militaire, nous sommes montés et on a vu là un spectacle incroyable, c'est-à-dire l'eau qui montait, une petite formation, quelquefois des nuages, mais quelquefois comme des nuages transparents, comme les images que l'on voit dans l'aéroport quand il y a de l'essence et les avions se voient confus. Et ce qui m'a étonné le plus, c'était que les petites concentrations d'eau c'était comme des boîtes qui contenaient des sons. Il y avait les voix des gens au village en bas, qui étaient très loin, et qu'on attendait comme si elles étaient à côté. Les chiens et les chats qui faisaient des bagarres, la radio, c'est-à-dire tous les bruits du petit village montaient jusqu'à nous, dans les petites boîtes des échos qui étaient ces nuages-là. Et à ces moments-là, et je vous jure que j'avais rien fumé, j'ai ressenti la présence de mon père qui avait une conversation avec moi. Et c'était au moment où je commençais à remarquer que les champs de fleurs qui, à peu près en surface, doublaient l'oasis des palmiers, c'était plein des fleurs très fragiles que les vents mouvement commençaient à sécher. Au moment où j'ai vu qu'elles séchaient, je me suis rappelé d'une conversation avec mon père, mais je l'ai ressenti vraiment très vivant, comme si j'entendais sa voix. Je me souviens clairement d'avoir eu la texture de sa voix à l'oreille. Et lui, j'ai ressenti une angoisse. Et il m'a dit, calme-toi, ne t'inquiète pas, pas tout va être détruit. C'est un cycle normal. Il y aura des émelles qui, de chaque fleur, laissent une quantité plus grande de émelles. Et alors, la prochaine fois qu'il y aura de la pluie, les fleurs vont être multipliées. Alors, c'est un cycle de vie. Les desserts, ce n'est pas les vides. Les desserts, c'est la vie d'une manière qui n'est pas évidente. Et en même temps, c'est la vie potentielle. C'est ce qui va venir. Et je commençais à avoir aussi des images d'une époque où j'avais 300 à peu près. Et je suis allé, on s'est déplacé de la ville de Mexico au désert du nord du Mexique, à la Basse-Californie. Et on a commencé à vivre là-bas. Et nous sommes arrivés à l'époque où il y a eu un ouragan dans un village où la pluie arrivait très rarement. Et ces fleurs ont grandi aussi. Et comme l'orage continuait, et il y avait des vents très forts, je me souviens qu'on avait peur. Et quand on a vu à la fenêtre de la maison qu'un toit, et là les constructions ne sont pas comme d'habitude au Mexique en ciment, mais en bois, comme aux États-Unis. Et alors les toits d'une maison s'est détaché, et on a vu les toits qui faisaient un voyage en face de notre maison. Et mon père, pour exorciser la peur mienne et celle de mon frère, me disait, voulez-vous voler? Et je dis, comment voler? Oui, il nous a pris quelque chose qu'il appelait l'embrasement de pompiers, que c'était de prendre les bras comme ça. Et moi et mon petit frère, qui était plus maigre, moi j'avais 300, il avait un an et quelques, il nous prenait, on sortait en face de la maison, et avec les vents, on sentait qu'on volait. Et tout ça, pour moi, l'important, c'est que c'est pas seulement que je me suis rappelé d'un coup. C'est pas seulement que je récupérais une partie de ma enfance. Pour moi, l'important et le plus touchant, c'était que je ne savais pas que je l'avais perdu. J'ai vraiment eu des doutes à ces moments-là, si ce n'était pas une hallucination. Parce que ça avait les statuts du délire. J'ai crié à mon père et il m'a confirmé en détail tout ce que je sais. Et alors je me suis rendu compte qu'il y avait ça, qu'il y avait des mémoires que l'on ne sait pas, qu'on a oubliées, personnelles, très fortes, et qui restent à nous quelque part, et qu'elles peuvent ressortir. Pour moi, bien sûr, je voulais vous raconter ça, l'inattendu et la dimension de ne pas avoir conscience. C'est-à-dire la mémoire, ce n'était pas une conscience, c'était la conscience de l'inconscience, de l'oubli. Et ce qui m'a étonné dans la continuation du voyage, c'est que cette expérience a touché tous les voyages. C'est-à-dire que la mémoire m'a ouvert une sensibilité de tout ce qui allait se passer après. Et que n'importe quelle petite anecdote avait une dimension de texture, de l'inattendu, de quelque chose de très propre, très, très à moi, qui m'est touché très profondément. Et quelques-unes des expériences qui nous arrivaient à ces moments-là ont pris pour moi la dimension d'une clé de la vie. Une d'elles, c'était les mêmes jours. Nous sommes allés très tôt voir être témoin de l'évaporation de l'eau dans les déserts. Et quelques heures après, nous devions continuer les voyages et nous sommes allés vers la ville de Zaouira, dans la côte atlantique du Maroc. C'était un voyage. Il fallait encore traverser un morceau du désert. Et c'est un paysage c'est un désert où il y a très peu de dunes, mais c'est un désert plutôt lunaire avec des pierres. Et les gens qui conduisaient les transports publics, tu ne sais jamais comment est-ce qu'ils arrivent à s'orienter parce qu'il n'y a pas de chemin. Les pistes. Parce que quand il y a des dunes, la dune, quelquefois, elle est à droite et comme elle se déplace, la semaine après, elle peut être à gauche. Mais ils arrivent à s'orienter comme les gens s'orientent sur la mer. Et on ne sortait pas encore de ce désert des pierres. Quand on a vu un ensemble des arbres, ce qui était très très rare, parce que vraiment c'était plus de 5 heures que l'on voyait que sécheresse. Et c'était des arbres très verts qui avaient une hauteur d'à peu près de 2 mètres. Et après, j'ai appris que c'est un genre de plante qu'on appelle dévastatrice. Parce que même si elle grandit jamais plus de 2 mètres, 2,5 mètres au plus, les racines grandissent très vite et puissent atteindre une profondité de 20 mètres. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir de l'eau et aucune autre plante peut l'avoir. Elle appelle dévastatrice parce que quand on les met, même si c'est les terrains, s'il y a un peu d'eau, elle s'assure qu'il n'y a pas pour les autres. Qu'il n'y ait pas pour les autres. Et quand on s'approchait, on a vu que ces arbustes, presque, ces petits arbres qui s'appellent arganiers, étaient pleins de taches. Et avec toute ma connaissance de la campagne au Mexique, j'ai dit, des taches sur les arbres, c'est sûrement de voitures. Et ma femme, qui a toujours raison, même quand elle se trompe un peu, je l'ai appris dans ses voyages, m'a dit, écoute, non, tu te trompes complètement. C'est pas des vautours. Je pensais, c'est des vautours parce qu'il y a une vache morte. Ah, mais écoute, ici, il n'y a pas de vaches. Et c'est pas des vautours, c'est quelque chose d'autre, parce que ce sont des animaux qui ont 4 pattes. Je dis, mais comment? Des chiens sur les arbres? C'est pas possible. De quoi est-ce qu'il s'agit? Nous nous sommes approchés et il y avait un troupeau de chèvres sur les arbres. Et moi, qui étais à une époque de ma vie où j'ai cherché ma propre voie littéraire, et que j'haïssais parce que je grandis en lisant Garcia Marquez, et alors il y a une facilité énorme, tout le monde copie Garcia Marquez, j'étais content de voir que ça, c'était pas un écrivain imitant Garcia Marquez qui l'avait inventé, c'était même pas moi, mais que c'était vrai, c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose de magique, et qui était là, c'était la nature qui était comme ça. Et alors, avec un grand enthousiasme, tandis qu'on s'approchait, j'ai dit au Marocain qui était à côté de moi, je dis, regarde, quelle merveille. Il m'a dit, quoi? Là. Il a dit, oui, ce sont des arganiers, ce sont des arbres merveilleux, etc. Il donne une petite olive, etc. Et j'ai dit, non, pas les arbres. Il me dit, quoi alors? Les chèvres. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elles ont, les chèvres? Je regardais, je confirmais, elles sont sur les arbres. Et il m'a vu comme un fou, m'a vu d'un haut en bas, et m'a dit, mais les chèvres sont toujours sur les arbres. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qui pour moi était merveilleux, pour lui, était n'importe quoi. C'était une chose banale de la vie. Et après, j'ai acheté un livre avec des chèvres sur les arbres et les pieds de photos dit « Arganier, arbre de la région de Saoui », etc. C'est-à-dire, il ne voit pas les chèvres. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que ma tâche comme poète, c'était de repérer les chèvres sur les arbres. Pas seulement de là où on les voyait en face, mais les chèvres sur les arbres, c'est-à-dire les choses que l'on considère banales et qui ne méritent pas notre attention, existent partout dans mon mariage, dans mon travail, dans mon pays. Et je me suis rendu compte et je me suis proposé à ce moment-là de découvrir les chèvres sur les arbres sur toutes les dimensions de ma vie. En fait, ce que je fais dans l'édition, la revue que je dirige au Mexique, je pourrais dire que mon but, c'est de repérer les chèvres sur les arbres, des phénomènes, des choses que l'on considère banales ou que l'on considère déjà comprises ou déjà étudiées. Mais la relation entre l'histoire intérieure, l'histoire de la mémoire inattendue, et cette histoire-là a été surchargée pour moi d'émotions, pas seulement parce qu'il y avait des chèvres sur les arbres, mais par une autre chose dont j'ai mis du temps à décerner la raison. Et la raison, c'était, je l'ai compris un peu après, aussi avec l'aide de mon père, pourquoi est-ce que je mets les deux en rapport et pourquoi est-ce que l'histoire des chèvres a pris dans ma vie ces dimensions qui m'a réveillé à développer. Je pense que tous mes livres développent maintenant ce que j'appelais une espèce de poétique de l'étonnement, c'est-à-dire à la recherche des chèvres perdues. Et c'est que le arganier, c'est un arbre qu'ils disent qu'il n'existe qu'au Maroc, mais il y a des amis qui disent qu'il existe en Grèce, mais en fait, il y a un arbre cousin qui existe au Mexique, qui s'appelle Huizache, qui appartient à la même famille biologique. Et quand j'étais petit, à cette époque-là où j'ai vécu avec mes parents au désert, je ne descendais pas des Huizaches. C'est-à-dire que l'histoire des chèvres aussi m'a rappelé, et je me suis rendu compte parce que je m'identifiais pas seulement avec la vision des autres qui étaient avec moi et qui voyaient les chèvres, mais je me suis rendu compte que ça m'a touché parce que j'ai mis d'identifier aux chèvres. C'est-à-dire, je me suis rappelé d'un morceau de cette enfance où j'étais sur les arbres. Et cette sensation d'être sur l'arbre m'a vraiment, quand j'étais enfant, m'a vraiment rendu heureux. Et alors la mémoire, les coups de mémoire involontaires à l'oasis de Sagoda a conditionné, a donné une espèce de assaisonnement à l'expérience qui est suivie et qui m'a permis de donner une place à l'histoire des chèvres de ma vie. Et cette histoire de l'inattendu aussi est devenue une poétique consciente. Je me suis rendu compte que ça existait dans la quatrième histoire très brève, que je vais, c'est presque même pas une histoire, ça c'est beaucoup plus anecdotique, mais que c'est aussi prendre de l'inattendu une poétique. Oui. Et c'est pour finir. J'essayais dans les cadres des travaux de la revue que je fais de faire l'histoire d'un des derniers chamans, huicholes, qui font des tableaux. Et l'intéressant pour moi des tableaux qu'il fait, à la différence des artisans ou d'autres, c'est quelque chose d'une dimension importante de son travail d'artiste. C'est que les tableaux n'est pas les comptes rendus de l'apparition des dieux. Et dans un rituel, il y a les apparitions des dieux, même avec des drogues, mais les tableaux n'est pas les comptes rendus de l'apparition des dieux. Ce n'est pas les mythes où l'on raconte ce qu'on a rêvé. L'apparition des dieux n'est pas possible s'il n'y a pas de tableaux. C'est-à-dire, les tableaux, c'est la condition de la vision. Et pour moi, ça se lie avec certaines dimensions de l'art contemporain, surtout abstrait, comme Rothko, par exemple. Non? Et alors, j'essayais de faire une espèce de mémoire de cet homme, parce qu'il est très vieux, et c'est vraiment les derniers d'une génération, et ceux qui suivent, ça sera déjà une autre chose. Et alors, j'ai eu à peu près une dizaine de séances avec lui. Et chaque fois, il me raconte une histoire différente de lui-même. Et c'est bizarre parce que c'est pas seulement qu'il me raconte une autre chose qui nie l'intérieur, mais c'est qu'il part d'une autre chose et arrive à un autre moment. Comme, alors à un certain moment, je me suis dit, mais pour, de quoi est-ce qu'il s'agit? Parce que vraiment, on ne peut pas rattraper sur le... C'est-à-dire, tous les pas qu'on a faits sont des pas perdus, ou de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, il m'a amené avec ses tableaux, et il m'a dit, vous vous souvenez quand je vous ai raconté ces tableaux, et après quand je les raconte, et j'ai demandé à autres personnes qui ont vécu l'expérience de voir les tableaux racontés, et il m'a dit, les tableaux, il faut que je les raconte chaque fois d'une manière différente. Et la méthode, c'est de rentrer par un des coins du tableau différent. C'est-à-dire, ce n'est pas les mensonges, mais ce sont des manières de rentrer dans l'histoire. Et selon où on rentre, on suit un cours différent, l'histoire est différente. Et il dit, parce que si je raconte l'histoire de la même manière, c'est-à-dire les mythes meurent. Et comme je suis vivante, il me faut que je vous raconte mon histoire d'une manière différente chaque fois.